Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Isabelle Dumont et Sandrine de Saint-Privat ont eu la même idée, demander à Franck Ferrand de raconter la mystérieuse histoire de la Mauresse de Morée. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est une excellente idée ça. Moi qui suis amoureux du grand siècle et friand d'anecdotes du règne de Louis XIV, je vous avoue que j'ai souvent entendu conter cette histoire. Seulement, d'habitude, on ne fait que l'effleurer en quelques mots. Eh bien aujourd'hui, en compagnie de Jean-Christian Petit-Fils, s'il vous plaît, nous allons tenter de faire le point, une fois pour toutes, sur ce sujet qui paraît secondaire, comme ça, alors qu'en vérité, il pose un certain nombre de questions fondamentales.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Mélanie sur les origines du piano.
Jolie question, et du reste, nous consacrerons bientôt une émission complète à cet instrument et à ses grands virtuoses. Pour le moment, nous allons plonger au cœur de l'histoire d'une époque où le piano n'existait pas encore, mais à l'époque, il y avait le clavecin. Allons lever le voile sur le mystère du couvent de Morée.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est une des plus jolies villes d'Île-de-France, immortalisée par les impressionnistes. Et quand je dis par les impressionnistes, évidemment, d'abord par Pissarro. Morée, sur Loing, se trouve aujourd'hui dans le département de Seine-et-Marne. À l'époque dont je vous parle, c'est-à-dire au milieu du XVIIe siècle, c'était encore un bourg, disons un bourg médiéval. Quand vous venez de Fontainebleau pour aller vers Pont-sur-Yonne, nous dit Alain Decaux, la petite ville de Morée vous présente un ensemble bien séduisant de vieilles murailles, de vieilles demeures, de vieilles rues, naguère fort impropres à la circulation automobile. Les déviations indispensables ont changé tout cela. Ah, c'est vrai que maintenant, il faut vraiment vouloir aller à Morée pour voir la jolie ville. Il y a là un couvent de bénédictines qui était à l'époque, au XVIIe siècle, dirigé par Élisabeth Pidoux. Élisabeth Pidoux était la cousine de Jean de La Fontaine, l'auteur des fables. Elle dirigeait ce couvent depuis 1639. Il y avait là une dizaine de nonnes seulement. Alors, ce couvent suivait la règle de Saint-Benoît, ce qui veut dire qu'on s'y lève à 5h10, on se présente à la chapelle à 5h30 pour la première prière du jour devant le Saint-Sacrement. Et puis, après le déjeuner, ce que nous appellerions nous le petit déjeuner, eh bien, alternait, comme dans tous les couvents bénédictins, les moments de prière et les moments de travail. Il y a aussi les lectures bibliques, etc. Mais il y a une part de travail manuel au potager, à la fabrication notamment des fameux sucres d'orge qui sont la spécialité de ce monastère. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ce monastère? Ben, j'y viens dans un instant. Les religieuses qui sont là sont modestes, sages. Il faut vous dire que l'austérité des lieux confine à la pauvreté. Saint-Simon nous parle même d'un couvent borgne. Décidément, vous vous dites, mais Saint-Simon va jusqu'à parler de ce petit couvent. Eh bien oui. Le silence, nous dit Roger Régis, était troublé parfois par l'aboi lointain des chiens ou la fanfare des trompes de chasse quand l'équipage de Louis XIV ou celui de son fils courait le cerf dans la forêt voisine. Et oui, on est tout près du domaine royal, bien entendu. On est même en bordure de la forêt royale de Fontainebleau. L'auteur ajoute « Ce couvent présentait quelque chose de singulier. Parmi les saintes filles réunies là, s'en trouvait une dont le visage et les mains étaient aussi noirs que la robe monacale. Des gens de couleur, il était rare qu'on en vît en France à cette époque. À plus forte raison, c'était peut-être un cas unique qu'une mauresse, une négrillonne comme on disait alors, eût pris le voile dans une de nos pieuses maisons. Ce couvent de bénédictines, précise effectivement Alain Decaux, ne se distinguait nullement de tous les autres et part à travers le royaume. On n'aurait jamais parlé de lui si précisément on y avait trouvé perdu au milieu de ses sœurs blanches cette religieuse noire dont l'existence frappa si fort les contemporains. Il est vrai qu'on en parle beaucoup. Vous imaginez bien qu'un cas à ce point atypique n'a pu qu'attirer par la suite l'attention du pape de la petite histoire. Voilà ce que nous dit Gilles Lenôtre, qui semble avoir des éléments sur cette mauresse, comme on disait à l'époque. Il dit qu'elle est arrivée à Morée dès qu'elle eut l'âge de raison. Et c'est vrai que l'abbé Pougeois, qui était curé à Morée, disait Elle devait y être déjà en 1680. Pour le reste, elle ne se distinguait pas des autres. Georges Touchard-Lafosse nous dit « Les religieuses supérieures l'élevèrent dans l'ignorance de son origine » et Saint-Simon précise tout de même qu'on ne montrait à personne cette mauresse. Pourtant, il semble bien que le couvent ait reçu des visites royales. On est tout près, je vous l'ai dit, du château et de la forêt de Fontainebleau. Alors, Louis XIV était venu une première fois au couvent de Moret en octobre 1658, mais c'était seulement une étape sur son voyage en direction de Lyon, où il devait à l'époque avoir une entrevue avec la princesse de Savoie. Vous savez qu'il devait épouser la princesse de Savoie. Finalement, il épousera l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, et plus tard, justement, si l'on en croit l'abbé Poujoie toujours, Marie-Thérèse fit, dit-il, plusieurs voyages de Fontainebleau à Moret pour voir la mauresse et le curé nous dit carrément qu'elle était sa fille. La reine s'intéressait à la manière dont elle était traitée et prenait grand soin du bien-être du couvent. Et plus tard encore, celle qui va succéder à Marie-Thérèse. Vous savez qu'après la mort de la reine en 1683, Louis XIV a secrètement épousé Madame de Maintenon. Eh bien, Madame de Maintenon a poursuivi les visites au couvent. Elle entretient une relation particulière avec ce couvent de Moret. Elle le soutient financièrement dès 1681 en lui octroyant, je cite, « une gratification de 4 à 5 000 livres, ce qui est pas mal d'argent, sans laquelle cette maison aurait eu de la peine à subsister. » Saint-Simon nous dit « Madame de Maintenon y allait souvent de Fontainebleau et à la fin, on s'y était accoutumé. » Alors elle ne voyait pas la mauresse à chacune de ses visites, mais souvent pourtant, nous dit-il. Elle veillait, je cite, « avec la plus grande attention à sa santé, à sa conduite et à celle de la supérieure à son égard. » On raconte aussi la venue de la princesse Marie Adélaïde de Savoie pour épouser l'héritier du trône, le duc de Bourgogne. Madame de Maintenon, enfin le fils de l'héritier à l'époque, Madame de Maintenon l'emmène à Moret et lui fait rencontrer la mauresse. On trouve ça dans le journal de Sourches et dans celui de Dangeau. Le dauphin, le fils de Louis XIV et ses enfants viennent au couvent à plusieurs reprises. Alors, après un séjour dans un monastère de religieuses ursulines, il semblerait bien que la mauresse soit revenue dans ce couvent de Moret, où elle a prononcé ses vœux devant la famille royale. Ça prend quand même une tournure, notre affaire. Et elle avait demandé que le roi en personne fût présent à sa prise d'habit. « Moi, sœur Louise-Marie de Sainte-Thérèse, entre parenthèses, je vous permets d'insister sur les prénoms, hein, Louise-Marie-Thérèse, Louise-Marie de Sainte-Thérèse, je promets stabilité, conversion de vie et obéissance jusqu'à la mort selon la règle de Saint-Benoît devant Dieu et tous ses saints en ce monastère de Notre-Dame-des-Anges, construit en l'honneur de la bienheureuse Marie, mère de Dieu et toujours vierge. » Elle porte, vous l'avez vu, ses prénoms de Louise, Marie, Thérèse. Alors, deux semaines après la cérémonie, Louis XIV alloue à cette nonne une pension à vie, 300 livres de pension pour lui être payée sa vie durant au dit couvent ou autre où elle pourrait être par les gardes du trésor royal. On dit que la mauresse de Moret, c'est comme ça que l'histoire a retenu son nom, on dit qu'elle aurait vécu dans ce couvent pendant 50 ans, de 1680 à 1730. Vous avouerez que tout cela n'est pas banal.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la mauresse de Moret.
Vous savez que j'aime bien citer Voltaire en matière d'histoire. Voltaire se vivait, lui, comme un dramaturge avant tout. Nous le connaissons comme un philosophe, comme l'auteur de contes philosophiques, mais il était aussi historien et il était surtout très intrigué par tous les mystères, notamment du siècle de Louis XIV. Alors, il s'est rendu sur place, figurez-vous, avec son ami Caumartin, qui bénéficiait du droit d'entrée au couvent. Il avait réussi à faire lever l'interdiction qui frappait littéralement cette nonne. Personne n'avait le droit de la rencontrer. Eh bien, Voltaire, lui, a pu la rencontrer et il la décrit comme extrêmement basanée. Et d'ailleurs, elle lui ressemblait, dit-il. Et alors, quand il dit « elle lui ressemblait », il dit qu'elle ressemblait au roi, ce qui n'est pas sans poser problème. On y viendra tout à l'heure. Alors, d'après Voltaire, cette nonne était absolument persuadée elle-même d'être de la famille royale. Il l'a dit très orgueilleuse, elle avait semble-t-il une haute opinion d'elle-même. L'opinion qu'elle avait de sa naissance lui donnait un orgueil dont ses supérieurs se plaignaient. Madame de Maintenon, dans un voyage à Fontainebleau, nous dit Voltaire, alla au couvent de Moret et voulant inspirer plus de modestie à cette religieuse, elle fit ce qu'elle put pour lui ôter l'idée qui nourrissait sa fierté. « Madame, lui dit cette personne, la peine que prend une dame de votre élévation de venir exprès me dire que je ne suis pas la fille du roi me persuade que je le suis. » Et Saint-Simon nous raconte qu'un jour, il échappa à la mauresse, comme il disait, entendant Monseigneur, donc le fils de Louis XIV, chasser dans la forêt, de dire négligemment « C'est mon frère qui chasse ». Saint-Simon rapporte ce qu'on disait à la cour. On prétendait qu'elle était une fille du roi et de la reine, que sa couleur de peau avait fait cacher et disparaître, et publier que la reine avait fait une fausse couche, et beaucoup de gens de la cour en étaient persuadés. Quoi qu'il en soit, la chose est demeurée une énigme. Alors, retournons à la source de cette énigme, à la naissance de cet enfant. Nous sommes le 16 novembre 1664. Ce jour-là, la reine Marie-Thérèse accouche d'une petite fille qui est officiellement prénommée Marie-Anne de France. Elle naît à 8 mois, donc bien avant terme. On est au Louvre, à l'époque bien entendu, et l'accouchement a été difficile. Serge Billet nous dit « Le visage défait, le regard vide, le souffle court, l'épouse de Louis XIV guette ses premières contractions, mais voilà depuis 2 heures qu'elle a perdu les os. C'est le calme plat comme si le bébé refusait de sortir, prolongeant du même coup le calvaire d'une femme déjà à bout de souffle. » Alors on dit, ça c'est la légende, qu'il y a eu 3 cris. Celui de la reine, qui évidemment était en train d'accoucher si douloureusement, celui de l'enfant, une fois né bien sûr, et puis celui de la foule horrifiée. Voilà ce que nous dit la duchesse de Montpensier, la cousine de Louis XIV. Attention, elle n'était pas présente au moment de l'accouchement, c'est le frère du roi qui lui a raconté tous les détails. « Monsieur me conta l'effroi que l'on avait eu sur la maladie de la reine. Le monde était au Louvre lorsqu'on lui apporta notre Seigneur et comment monsieur l'abbé de Gordes, présentement évêque de Langres, son premier aumônier, s'était évanoui d'affliction, que monsieur le prince, donc le prince de Condé, avait ri, et tout le monde ensuite, que la reine avait fait une mine. Je ne m'en étonnais pas, quand on est dans cet état et qu'on voit rire, on n'est pas trop aise, nous dit-elle, que la fille dont elle était accouchée ressemblait à un petit mort, que monsieur de Beaufort avait amené, qui était fort joli, qui était toujours avec la reine, que quand on s'était souvenu que son enfant y pourrait ressembler, on l'avait ôté, mais qu'il n'était plus temps, que la petite fille était horrible, qu'elle ne vivrait pas, que je me gardasse bien de le dire à la reine, vu qu'elle en mourrait. La reine me conta le chagrin où elle avait été, de quoi l'on avait ri lorsqu'on lui avait donné le viatique. Quant à Madame de Motteville est un témoin important, c'est la première dame, elle est toujours aux côtés d'Anne d'Autriche, et elle est présente, elle, au moment de l'accouchement. Elle racontera, mais attention, elle racontera ça en 1675, c'est-à-dire 11 années plus tard. Marie-Thérèse s'entretenait de la favorite, donc Mademoiselle de la Vallière, avec Madame de Montpensier lorsque Sa Majesté, qui était aux écoutes, entra brusquement. Sa vue la surprit si fort qu'elle rougit et saigna du nez, de manière qu'elle se servit de ce prétexte pour sortir. 3 jours après, elle accoucha d'une petite fille mauresse dont elle pensa mourir, nous dit Madame de Motteville. Donc quand même beaucoup de témoignages très intéressants sur cet événement. Les médecins vont évidemment tout de suite chercher une explication à la couleur de la peau. Georges Touchard-Lafosse nous dit « Les médecins se hâtant d'expliquer sa couleur, jurèrent à Sa Majesté qu'il avait suffi d'un regard d'un mort pour faire une mauresse de la petite fille. » Certains praticiens évoquent l'alimentation de la reine durant sa grossesse. Vous voyez que Marie-Thérèse ingurgitait des quantités phénoménales de chocolat notamment. Et certains praticiens vont vouloir expliquer cette couleur par la difficulté même que la reine a pu avoir à accoucher. « Le moindre étudiant en médecine dirait de nos jours, nous dit Alain Decaux, qu'il reste parfaitement exclu qu'un mari et une femme, tous deux blancs, aient pu mettre au monde un enfant noir. » À l'époque, on ne connaît pas grand-chose à ces questions génétiques. Je dirais même qu'elles n'existent pas en tant que discipline à part entière. Maupertuis, qui est un scientifique, nous dit « Une femme enceinte qui croise un nègre dont la vue peut surprendre ou effrayer peut subir un choc tellement fort au point d'avoir les sangs tournés et d'accoucher d'un négrillon. Vous voyez à peu près où on en est quand même à l'époque. Le chirurgien Félix assure à Louis XIV qu'il avait suffi, je cite, d'un regard du mort pour faire une mauresse de la petite fille, etc., etc. On a un grand nombre de témoignages qui vont dans le même sens. Alors, autour de la reine, on parle d'un noir. Qu'en est-il de ce serviteur ? Il s'appelait Nabo. Il était arrivé à la cour. Alors, on a plusieurs versions de cette arrivée. Si j'écoute Anne-Marie de Montpensier, il a été donné à Marie-Thérèse par Monsieur de Beaufort. Éric Saulier, en 1866, qui était amateur de ce genre d'anecdotes, précise « Monsieur de Beaufort, grand amiral de France, avait amené ce petit mort soit à la suite des incursions qu'il fit en 1663 sur les côtes barbaresques, soit à son retour de l'expédition de Jigéry, qui a été pris et occupé par les Français le 28 juillet 1664. » Serge Billet nous dit « c'est peu probable, si l'on s'en tient aux dates, que ce soit M. de Beaufort qui ait fait don de Nabo à la reine, car le grand amiral de France n'est revenu de son expédition sur les côtes algériennes qu'à la fin de la grossesse de Marie-Thérèse, voire même après l'accouchement. » Deuxième version possible, celle du journaliste Georges Touchard-Lafosse. Duquesne avait donné à la reine un jeune mort donné Nabo, qui faisait agréablement les tours d'adresse et amusait sa majesté dans la solitude où elle vivait, nous dit-il. Quand cet Africain commença à parler français, ses saillies étaient enjouées, naïves et remplies de vivacité. Quant à Le Nôtre, il explique « Les ambassadeurs d'un prince africain avaient offert à la reine Marie-Thérèse, entre autres bibelots exotiques, un joli petit mort de 10 à 12 ans qui n'avait que 27 pouces de hauteur. La reine s'attacha dès le premier moment à son petit négrillon. » Vous voyez qu'on a beaucoup de versions possibles sur l'arrivée de ce jeune serviteur noir à la cour. Ce qui semble plus probable, c'est qu'il ait été vraiment très proche de la reine Marie-Thérèse.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous continuons à découvrir avec vous, Franck Ferrand, la vie de la mauresse de Moret.
Alors, ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que cette petite fille est morte, officiellement en tout cas, le 26 décembre 1664, donc elle avait à peine plus d'un mois. Louis XIV annonce à son beau-père, le roi d'Espagne, autour de Noël, « Monsieur mon frère, oncle et beau-père, ma fille mourut hier soir dans le moment, à ce que l'on dit, qu'elle devait naître si sa mère eût pu la porter jusqu'au terme. Bien que nous fussions préparés à ce fâcheux accident, il n'a pas laissé de me toucher d'une douleur assez vive. » Alors là, nous dit Serge Billet, il y a une contradiction flagrante dans les dates. Car l'épistolier Guy Patin, de son côté, écrit à la date du 8 décembre, c'est-à-dire 3 semaines plus tôt, « La petite madame a eu des convulsions et est morte ce matin. Elle était fluette et délicate sans jamais avoir eu de santé. » Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait eu substitution de ces tout jeunes enfants ? Les contemporains évoquent la mort sans avoir vu le corps exposé. C'est important de le souligner. Madame de Hauteville précise que, je cite, « toute la famille royale se rendit, après l'annonce du décès, dans la chambre de l'enfant qui venait d'expirer. » Serge Billet nous dit « On peut en déduire que la cour n'a pas vu le corps et a juste entendu dire qu'un cœur avait été porté au Val-de-Grâce sans que rien n'atteste que ce fût effectivement celui de la princesse ou même qu'il y ait eu un cœur dans la boîte du reste. On ne peut dès lors exclure qu'il ait pu y avoir substitution et qu'on ait en fait porté au Val-de-Grâce le cœur, par exemple de l'un des nombreux nourrissons abandonnés ou morts qu'on trouve à l'époque en grand nombre dans la capitale. » Alain Decaux précise « La princesse Palatine, qui n'était pas encore en France en 1664, jura que l'enfant laide, comme on l'appelait, est morte. Toute la cour l'a vue mourir, dit-elle. Est-ce sûr ? Demande Alain Decaux. Si l'enfant était réellement une mauresse, la logique voudrait qu'on annonçât sa mort et qu'on la fît disparaître. Dans ce cas, un couvent était tout désigné. » Le Nôtre confirme, on l'expédia du côté de Gisors pour y être élevé en nourrice et l'on fit mettre dans la Gazette de France que l'enfant royal était morte après avoir été ondoyée par les aumôniers. Beaucoup, beaucoup plus tard, Madame Palatine, qui, vous le savez, n'avait pas sa langue dans sa poche, reconnaît qu'on ne peut ôter de la tête du peuple que l'enfant ne vive encore, qu'elle ne soit dans un couvent à Moret, près de Fontainebleau. Donc ça, c'est la princesse Palatine qui le dit à l'époque de la Régence et qui se fait simplement l'écho de la rumeur, en quelque sorte. Le duc de Luynes, quant à lui, rapporte une conversation qu'il avait eue avec la reine Marie Leginska, la femme de Louis XV, à propos de la mauresse de Moret. « On a parlé longtemps d'une religieuse mauresse qui était dans le couvent de Moret, près de Fontainebleau, écrit-il, et qui s'était imaginée être fille de France. »
on lui avait persuadé que la reine Marie-Thérèse était accouchée d'elle et que la singulière couleur de sa peau avait déterminé de la mettre dans un couvent. La reine, donc là on parle de la reine, attention, de l'épouse de Louis XV, la reine Marie Leszczynska. La reine m'a fait l'honneur de me dire qu'elle en avait parlé à Madame la princesse de Conti, fille légitime de Louis XIV, et que Madame la princesse de Conti lui avait dit qu'effectivement, la reine Marie-Thérèse était accouchée d'une fille dont le visage était tout à fait violet et même, disons-le, noir, parce qu'elle avait apparemment beaucoup souffert en venant au monde, mais cette fille mourut peu de temps après. Vous voyez que la question se pose. Est-ce que Marie-Anne était vraiment l'amoresse? On a plusieurs hypothèses, bien entendu. Il y a l'hypothèse que cette petite fille soit la fille que la reine de France aurait eue avec son serviteur noir. Il y a aussi une autre hypothèse, c'est qu'elle ait pu être la fille que Louis XIV aurait eue de son côté, avec une servante noire, ce qui aurait expliqué qu'on la fasse sortir de la cour et qu'on l'installe dans un couvent. Pour tout vous dire, je suis très curieux de connaître l'avis de Jean-Christian Petit-Fils sur la question. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour parler d'un sujet qui est, disons-le, un sujet de petite histoire, mais avouez que l'énigme est assez
tout
piquante.
Tout à fait, tout à fait. C'est une des énigmes du XVIIe siècle, avec la fameuse énigme du masque de fer ou du mariage de Madame de Menthon, du mariage secret.
Alors, il faut dire qu'on a un portrait de cette Moret de Moret. Il était en 1779 dans le cabinet de l'abbesse du couvent de Moret. Et il a été transféré ensuite à l'abbaye Sainte-Geneviève. Il est encore aujourd'hui conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève.
C'est une petite toile de 38 cm sur 30 cm. Et on voit représenter une religieuse noire de bon teint qui ne ressemble absolument pas au roi. Ça, c'est un fait, contrairement à ce que
avéré.
Dit Voltaire.
Alors, dans un instant avec vous, nous avons un grand nombre de questions à élucider.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la Moresse de Moret, avec votre invité Jean-Christian Petit-Fils, historien et écrivain spécialiste de l'Ancien Régime.
Alors, si vous le voulez bien, Jean-Christian Petit-Fils, après avoir eu tous ces éléments, je n'ai pas donné toutes les pièces du dossier, loin de là, mais je pense qu'on peut se faire déjà une idée de ce qui est. Réglons les questions l'une après l'autre. La première, peut-être, celle qui me paraît le plus essentielle, c'est de savoir si elle a bel et bien existé, cette Moresse de Moret. Est-ce qu'il y avait bien une religieuse noire à Moret à la fin du XVIIe siècle?
Alors, il faut, dans toutes ces énigmes historiques, qui sont souvent entourées d'un halo légendaire, de romans qui ont été rajoutés, le nôtre que vous citez, Gosselin le nôtre, le nôtre, vivait à la fin du XIXe siècle, et là, il a écrit une pièce sur la Moresse de Moret, comme s'il était un témoin. Vous citiez aussi Touchard Lafosse. Touchard Lafosse a écrit des chroniques de L'œil de bœuf qui datent de 1829.
Qui sont à prendre avec de grandes pincettes.
Et exactement. Là, il y a aussi beaucoup de romans. On cherche à plaire, à être amusant, mais on ne cherche pas à cerner la vérité historique. Alors, il y a un fait, c'est que dans ce petit couvent de bénédictines, de Notre-Dame-des-Anges, au lieu dit Pont-Loué, tout à côté de Moret, a vécu à la fin du XVIIe siècle une jeune religieuse noire. On a même retrouvé des actes notariés. En 1725, elle signe Louise Marie, sœur Sainte-Thérèse. En 1728, elle signe, donc c'est bien après la mort de Louis XIV, elle signe sœur Marie de Sainte-Thérèse. Et la dernière signature qu'on ait date de janvier 1730. Il semble qu'elle soit morte vers 1732. Nous avons certains témoignages, mais attention, le témoignage de Saint-Simon, par exemple, ne fait que rapporter des on-dit, des rumeurs de la cour. Il faut se méfier. Nabo, qui est le nom donné par Touchard Lafosse, n'est évidemment pas le nom du petit enfant. On a un témoignage d'un mousquetaire, Carré d'Aligny, qui lui donne le nom d'Augustin, qui semble plus vraisemblable compte tenu du caractère de Saint-Augustin qui est né en Afrique.
Restons peut-être déjà sur la Moresse elle-même. Alors on disait Moresse, c'était le terme qu'on employait, on disait négresse aussi.
On mêlait aussi bien quelqu'un d'Afrique du Nord que d'Afrique subsaharienne.
Ou des Indes, ou tout ça.
Voilà, quelqu'un de basané, c'était une Moresse ou Moresque. Quels sont les éléments historiques que nous avons sur cette Moresse? Et puis quels sont les éléments historiques que nous avons aussi sur la naissance de la petite...
Voilà, c'est ça. Après on parlera de la naissance. Voilà.
Alors, sur la Moresse...
On a des témoignages quand même.
On a des témoignages.
La princesse palatine, etc.
Nous avons des textes. texte, un document de 1685, juin 1685, qui nous parle d'une jeune fille noire qui va être confiée aux Ursulines de Mantes. Alors, c'est probablement notre Mauresse, mais c'est pas une certitude. Elle reçoit une pension de 250 livres à ce moment-là. On sait qu'elle entre comme religieuse professe en 1687 à Moret. Et en septembre 1695, vous l'avez dit, Madame de Maintenon, écrivant à la maîtresse générale de Saint-Cyr, dit « Je vais donner ces jours-ci le voile à une jeune maure qui désire que toute la cour soit à la cérémonie. » Je proposais de le faire porte fermée, mais on nous a dit que c'était un motif d'annulation. Il faudra donc se résoudre à voir le peuple rire. Voilà ce que écrit Madame de Maintenon. Ce qui montre bien que dans la tête de cette jeune noire, il y avait l'idée qu'elle était bien la fille du roi. Nous avons en effet aussi, vous l'avez cité, un brevet du roi du 15 octobre, donc 15 jours plus tard, disant « Le roi étant à Fontainebleau, voulant seconder le pieux dessein de Louise-Marie-Thérèse, Mauresse, d'embrasser la vie religieuse dans le couvent des bénédictines de Moret, sa majesté lui a accordé et fait don de la somme de 300 livres de pension. » Voilà des éléments historiques indiscutables.
Alors vous dites qu'elle était la fille du roi. Ça paraît quand même plus logique, a priori, qu'elle soit la fille de la reine. En tout cas, si c'est bien la jeune princesse née en 1664. Et ça nous ramène alors aux circonstances de ce fameux accouchement.
Alors, cet accouchement a été en effet très difficile pour la reine. Là, nous avons aussi des témoignages qui vont bien au-delà de ceux de Saint-Simon, qui sont très tardifs. Saint-Simon n'est pas né en 1664. Elle naît le 16 novembre 1664 à 11h. La Gazette relate cette naissance, mais nous avons aussi, on peut toujours suspecter la Gazette, évidemment, d'avoir arrangé les choses. Nous avons le témoignage de Madame de Motteville, vous en avez parlé. On a aussi des lettres du prince de Condé et de son fils à la reine de Pologne. Et là, on suit pas à pas.
On a la grande mademoiselle.
On a la grande mademoiselle. On suit pas à pas la maladie de la reine et la maladie de la petite. Les prières des 40 heures qui sont dites, la chasse de Sainte Geneviève qui est découverte, la consécration de la petite à la Vierge le 8 décembre, et puis sa mort le 26 décembre. Donc elle est née le 16 novembre, elle meurt le 26 décembre, au moment, nous dit Louis XIV, où elle aurait dû naître, d'après les calculs des médecins. Ce qui fait qu'elle est née à 7 mois, 20 jours de gestation.
Oui, c'est ça.
Prématurée à cette époque de 7 mois 20 jours, c'est évidemment
très peu viable.
Très très délicat, très peu viable. Tout le monde dit elle était laide. Alors était-elle vraiment noire? On a parlé d'une maladie bleue, d'un enfant cardiaque, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que, et là la Gazette aussi continue de nous le dire, le corps de la petite a été exposé, contrairement à ce que nous disent certains mémorialistes, et la cour l'a vu. Donc la cour est passée devant son corps et on a inhumé son corps à Saint-Denis, à l'abbaye de Saint-Denis. Et puis, son cœur au Val-de-Grâce.
Voilà, oui.
Alors, question, comment se fait-il que s'il y avait eu une substitution, le roi est accepté d'enterrer dans le caveau des rois de France une fille qui ne serait pas, une petite fille qui ne serait pas de sa propre chair? C'est tout à fait étonnant. Il y a tout de même aussi un autre argument très fort pour bien montrer que les deux histoires sont
déconnectées. En fait, oui, voilà.
C'est que ces petites pensions, 250 livres, 300 livres, c'est dérisoire par rapport aux sommes que le roi pouvait donner à ses enfants légitimés. D'abord, Madame de Montespan avait 75 000 livres par an pour ses enfants légitimés. Rien qu'une une fille légitimée de Mademoiselle Desoeillets, donc de Louis XIV, et Mademoiselle Desoeillets, Louise de Maison Blanche, mais dont on connaissait l'origine, reçoit 40 000 livres de dot.
Voilà, ça donne une idée.
Donc on voit
très importante somme. Oui.
Ces sommes de 250 à 300 livres sont généralement données à des jeunes filles de Saint-Cyr,
du service. Enfin,
voilà. Donc, ça ramène tout de suite dans de justes proportions. Et puis, même ce prénom de Louise Marie-Thérèse montre bien qu'il s'agit en réalité d'un prénom de baptême. Et là, on peut dire que c'était la mode à cette époque pour les grandes dames d'accompagner de jeunes noires. On en a des exemples bien précis, notamment de Marie-Thérèse.
Donc, on peut dire a priori que la petite fille née en 1664 est morte à l'âge d'un mois.
n'est pas, enfin selon vous, il faut déconnecter ça complètement de l'existence de la mauresse de Moret. Bon, c'est pas la jeune nonne, probablement pas, nous dites-vous.
Non, sûrement, alors, je dirais sûrement pas.
Il y avait bien quand même dans l'entourage de la reine ce jeune noir. C'est là peut-être.
Oui,
hein,
alors
ce fameux Nabo dont vous nous dites qu'il ne s'appelait pas Nabo.
Qui s'appelait peut-être Augustin, d'après un témoignage de l'époque. Ce jeune noir, il est représenté même sur un tableau où on voit le départ du roi pour la chasse.
Absolument,
avec la reine Marie-Thérèse, et puis il y a un petit noir à côté, et c'est un tableau qui date des années 1665-66, on ne sait pas trop, mais c'est avant les nouveaux aménagements de Versailles, donc on est dans cette époque-là. C'est tout ce qu'on peut dire, simplement, alors tout Charles-la-Fosse dit, il est mort subitement, certains ont dit, mais c'est le masque de fer, on s'est saisi de lui, on l'a emmené à Pignerol, on a aussi beaucoup romancé. Il faut voir que s'il y avait eu ce scandale immense, aurait-on accepté 20 ans plus tard, lorsque par exemple les filles de Madame de Montespan, Mademoiselle de Blois et Mademoiselle de Nantes se font représenter en tableau, il y a à nouveau un petit noir qui est là, un petit page noir. Aurait-on accepté de poursuivre cette tradition d'avoir dans l'entourage des dames et des demoiselles de la cour des pages noires s'il y avait eu ce scandale?
On aurait sans doute changé l'habitude.
Bon. On a un argument tout à fait solide là.
On va vous suivre, Jean-Christian Petit-Fils. Donc admettons que la petite fille née en 1664 ne soit pas la petite Mauresse, et admettons que ce pauvre serviteur noir de la reine Marie-Thérèse ne soit pour rien dans l'affaire. Il n'empêche qu'un certain nombre d'éléments assez troublants demeurent. Il y avait d'abord la certitude de cette nonne elle-même, hein, qui était convaincue, d'après Saint-Simon, qui nous dit, entendant son frère, le grand dauphin, chasser le loup dans les environs, elle aurait dit, voilà l'équipage de mon frère. Et quand Madame de Maintenon, en personne, se rend au couvent pour essayer de la dissuader, de lui retirer ses idées un peu extravagantes, elle dit, Madame, si ce n'était pas vrai, vous ne vous seriez pas déplacée vous-même, etc. Ce sont quand même des arguments assez troublants. Alors, il y a d'autres hypothèses possibles. Ce n'est pas parce que l'enfant de 1664 n'est pas la Mauresse de Moret que cette religieuse, qui donc vivait à Moret à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, n'était pas pour autant une fille de sang royal. On va voir ce qu'il en est. On peut poser d'autres questions. Je vais vous les poser, Jean-Christian Petit-Fils, dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la Mauresse de Moret, avec votre invité Jean-Christian Petit-Fils, historien et écrivain, spécialiste de l'Ancien Régime.
J'ai dit tout à l'heure, Jean-Christian Petit-Fils, en parlant de cette affaire, j'ai cité Voltaire qui nous dit qu'elle ressemblait, donc cette Mauresse qu'il a rencontrée, lui, qu'il est allé voir sur place à Moret, elle ressemblait beaucoup à Louis XIV. Alors vous nous dites, le portrait nous dit le contraire.
Oui, il semble que ce portrait soit un portrait authentique, puisqu'il était dans le cabinet de l'abbesse de Moret jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et qu'il a été transféré à un autre couvent, le couvent de Champbenois de Provins, en 1784. Donc là, il y a une filiation établie. Donc apparemment, c'est le portrait de cette jeune noire qui a été fait. Et quand on le voit, manifestement, vous l'avez vu, je l'ai vu, on le voit à la bibliothèque Sainte-Geneviève, il n'y a aucun trait qui permette de rappeler que le visage de Louis XIV.
Donc Voltaire se serait laissé un peu aller, son imagination l'aurait
emporté. Voltaire parfois se laisse aller emporter par l'imagination.
Mais est-ce que pour autant, parce qu'après tout, cette histoire de ressemblance est une chose, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la religieuse en question soit l'enfant du roi avec une servante noire cette fois, et non pas l'enfant de la reine avec un serviteur?
Alors, c'est pas impossible, évidemment, mais il faudrait le prouver, il faudrait avoir des éléments. On connaît quand même assez bien la vie sentimentale de Louis XIV, qui est une vie très riche, comme celle d'Henri IV, comme celle plus tard de son arrière-petit-fils Louis XV, mais on n'a aucun moment trace d'une jeune servante noire qui aurait vécu à la cour et que Louis XIV aurait rencontré. On peut penser que cette histoire de la petite madame, comme on l'appelait, qui est morte en 1664, a étonné, choqué la cour, surpris les courtisans, et que à partir de là, les rumeurs ont continué à fonctionner, et que elles sont parvenues à cette jeune fille noire qui est entrée au couvent de Moret, qui s'est considérée comme la fille de Louis XIV et de Marie-Thérèse.
Elle s'est fabriquée son ascendance, en quelque sorte. Elle a créé son propre roman.
Voilà, on lui disait qu'elle était orgueilleuse, qu'elle avait beaucoup de vanité. Donc c'est très probablement cette solution, cette explication.
Quoi qu'il en soit, nous dit Saint-Simon, l'affaire reste une énigme. Alors, si cette religieuse n'était pas la fille du roi Louis XIV, n'était pas la fille de la reine Marie-Thérèse, il fallait quand même qu'elle soit issue de, j'allais dire, de l'entourage royal. On ne se serait pas soucié d'elle à ce point s'il n'y avait pas un lien quelconque avec la cour et au-delà même de la cour, avec la famille royale.
Non, je ne pense pas. Moi, je trouve que la thèse soutenue par le duc de Luynes en 1756, décembre 1756, il dit « La Roche, concierge de la ménagerie, avait un couple de morts, et donc un mort et une mauresse. Ils ont eu une petite fille, à peu près au moment de la naissance et de la mort d'ailleurs de la petite madame. Ils ont été très embarrassés. Ils en ont parlé à madame de Maintenon, et qui a mis cet enfant à Moret. » Alors, il y a eu peut-être quelques années, évidemment, entre la naissance et l'arrivée à Moret, mais c'est l'hypothèse, de mon point de vue, la plus vraisemblable, plutôt qu'un enfant né des amours ancillaires de Louis XIV, inconnu, avec une jeune noire inconnue, ou que ce soit la survivance de la petite Marie-Anne qui meurt devant toute la cour, qui est enterrée à Saint-Denis.
Alors, prenons cette hypothèse. Est-ce que tout s'explique à partir de là? Est-ce que ça explique la rumeur qui va naître et qui va se développer autour de cette religieuse? Est-ce que ça explique notamment que Madame de Maintenon se rende elle-même au couvent de Moret?
Alors, Madame de Maintenon a repris les traditions caritatives de la reine Marie-Thérèse. Et au fond, les deux reines, enfin pas la reine morganatique, hein, puisque elle succède...
La reine et son successeur.
Voilà, exactement. Eh bien, elle a repris, elle le dit d'ailleurs dans une lettre, le 27 septembre 1715. « Entre mes charités, une des plus considérables étaient les bénédictines de Moret, qui seront obligées de se séparer si la Providence ne leur formait pas quelques secours. » Donc, ce qui montre qu'elle veut aider ce petit couvent, borgne, comme dit, c'est-à-dire obscur, nous dit Saint-Simon, elle veut aider ce petit couvent à survivre. Et là, il y a une jeune fille. Alors, évidemment, c'est la curiosité de la cour. Il y a une jeune fille noire qui est religieuse.
Et quand elle prend le voile, on voit un grand nombre de personnages importants essayer de...
Oui, alors on n'a pas la liste des présents.
Certes.
On sait que Madame de Maintenon voulait faire une prise de voile à porte fermée et qu'elle n'a pas pu le faire. Il y a eu probablement des gens de la cour qui sont venus. Est-ce que le dauphin, est-ce que les princesses sont venues? Moi, j'en doute. On n'a pas d'éléments de ce point de vue. Donc, à partir de là, on allait voir. Madame de Maintenon s'intéressait à ce couvent. Il y avait cette jeune fille noire. La princesse, en effet, duchesse de Bourgogne, Marie-Adélaïde, en 1697, quand elle arrive pour épouser le duc de Bourgogne, donc petit-fils de Louis XIV, y va aussi. C'est une espèce de curiosité. C'est tout ce qu'on peut dire. Moi, je ne pense pas qu'il faille donner davantage.
Et sont ensuite les chroniqueurs et les écotiers du XIXe siècle, notamment Touchard Lafosse, notamment Gosselin le Nôtre, qui vont rapprocher ces rumeurs, ces bruits autour de la religieuse de Moret, qui vont rapprocher tout ça de la naissance de 1664.
Oui,
en fait.
Peut-être, mais il est possible aussi que dès la mort de la petite madame, les bruits aient couru, qu'on avait fait disparaître le corps, qu'elle était noire, qu'elle était... En fait, elle était probablement pas noire, mais elle avait un visage violacé. Elle avait vécu quelques jours, quelques semaines. Et donc, à partir de là, ces rumeurs ont été happées par cette jeune fille qui a cru qu'elle... Du fait que madame de Maintenon s'occupait d'elle, elle a cru qu'elle était une personne de haute destinée et de haute naissance.
Vous nous confirmez, Jean-Christian Petit-Fils, que la reine Marie-Thérèse était d'une moralité irréprochable?
Absolument, c'est une femme pieuse, tertiaire de Saint-François. Alors, probablement trop pieuse, trop dévote pour la fonction de reine qu'elle avait, parce qu'elle vivait au milieu de sa cour, ses dogmes espagnols, ses petits chiens qu'elle promenait. Elle était un peu enfermée, elle n'avait pas une vie de cour. Même Marie Leszczynska a su mener une vie de cour que Marie-Thérèse n'a pas fait.
Quant à Louis XIV, il avait, on le sait, non seulement des maîtresses déclarées, mais des aventures ancillaires aussi. Il paraît peu probable, nous dites-vous, qu'il ait pu avoir
d'avoir un enfant avec une servante noire. On n'en a en tout cas
aucune
preuve.
Quel
était le statut de ces personnes de couleur, non seulement à la cour, mais d'une façon plus générale dans la France du XVIIe siècle?
Alors, bon, ils étaient peu nombreux à la cour. Il y a quelques personnes de couleur. Ce ne sont pas des esclaves. Bien sûr, l'esclavage existe. Bien sûr, les ports de Nantes Bordeaux développent par le trafic triangulaire. Mais ce sont des valets et on s'efforce surtout de les convertir au christianisme, de les baptiser. J'évoquais tout à l'heure cette tradition dans les nobles dames, d'être marraine d'un jeune noir. On en a une, par exemple, à Fontainebleau, septembre 1681. Voilà le baptême, donc inscrit sur les registres, de Louis-François d'Angola, nègre, de parents inconnus, âgés de 9 ou 10 ans. Voilà ce que dit le texte. La marraine, c'est Marie-Thérèse. La reine Marie-Thérèse. Le parrain, c'est le comte de Bayonne. Bon, donc, Louise Marie-Thérèse, c'est très probablement Louis XIV et la reine Marie-Thérèse qui ont accepté d'être le parrain et la marraine.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont présents au baptême.
Quantité d'enfants ont pour le roi et la reine pour parrain et marraine.
Oui,
c'est évident. Donc, et tout ça nous ramène évidemment au concierge de la ménagerie, mon avis.
C'est toujours un tout petit peu décevant, évidemment, une énigme qui se clôt ainsi, mais ça paraît quand même probable ce que vous nous dites. Il est possible aussi que tout ce bruit, que toute cette rumeur, que toute cette affaire soit née de la rareté même de ces personnes. Car ce qu'il faut dire, c'est qu'ils étaient combien, on va dire en tout cas moins de 10 à la cour de France.
Certainement. Oui.
Donc évidemment, le fait qu'il y ait une religieuse dans un couvent qui se trouve aussi près d'un domaine royal et que cette religieuse soit noire, évidemment, ça ne pouvait qu'alimenter les fantasmes d'une certaine manière.
Tout à fait d'accord.
La rareté, en quelque sorte, aura été peut-être à l'origine
de l'imagination de cette jeune fille.
L'imagination de cette jeune fille et l'imagination de tous ceux qui, évidemment, en ont fait des tonnes.
Exactement.
Peut-être que Voltaire, que j'ai l'habitude de défendre ici et dont je dis souvent qu'il a un jugement assez fin sur les choses. Et sur
ça a été un très bon historien du grand siècle. Le siècle de Louis XIV est un livre remarquable pour son temps.
Mais en l'occurrence, c'est vrai que Voltaire, sur cette affaire, est peut-être allé un peu loin. Il voulait se vanter d'avoir était lui-même amoré, d'avoir rencontré.
Il l'avait vu.
Donc, d'un seul coup, ça lui donnait une espèce d'importance. Merci beaucoup, Jean-Christian Petit-Fils, de nous avoir ouvert les yeux sur le sort de cette religieuse de Moret. Je rappelle que les éditions Perrin vont bientôt rééditer, dans le cadre du tricentenaire de la mort de Louis XIV, votre ouvrage, votre biographie Louis XIV. Et par ailleurs, vous êtes en train de préparer un Louis XV dont vous viendrez nous parler à ce micro, naturellement.
Merci beaucoup.
Cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Mélanie. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle voudrait connaître les origines du piano.
Oui, alors nous avons entendu pas mal de clavecins dans le cours de cette émission. Et c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que le piano est l'héritier direct du clavecin. Eh bien, c'est pas le cas, parce que les deux instruments, évidemment, ont la même allure. Ça se ressemble. Il y a le clavier, il y a la caisse, etc. Mais le fonctionnement même est très différent. Vous savez que le clavecin est un instrument à cordes pincées ou grattées, alors que le piano est un instrument à cordes frappées. Et ça fait toute la différence. C'est pas anecdotique du tout, car ça veut dire que le piano va avoir une gamme beaucoup plus variée. C'est pour ça qu'en 1700, son inventeur, il s'appelle Bartolomeo Cristofori, qui est donc un Italien, comme son nom vous l'indique assez, c'est pour ça que Cristofori va parler d'un clavecin avec du piano et du forte. On va appeler ça très vite un clavecin piano forte, et puis ça va devenir le piano forte. Et aujourd'hui, on ne parle plus même que du piano. Alors, si ce piano naît en Italie, il faut vous dire qu'à la même époque, il y a un Français, il s'appelle Jean Marius, qui a inventé un instrument à peu près identique. Mais ça, c'est le hasard des inventions. Il se trouve que son invention à lui ne sera pas retenue. De même d'ailleurs que celle de l'Allemand Christoph Schröter, qui ne va pas avoir davantage de succès. Il va falloir attendre 1726 pour qu'un facteur d'orgue, il s'appelle Gottfried Silbermann, propose à Jean-Sébastien Bach deux pianos forts.
pianoforte. Alors on amène les deux pianofortés, Bach essaie les pianos, mais ça ne lui convient pas et il va falloir améliorer encore l'instrument. C'est ce que va faire Silbermann qui pendant 20 ans, en tout cas pendant près de 20 ans, va peaufiner son invention, va développer son instrument, après quoi Bach l'acceptera. Et alors là, ça va être le début évidemment de la grande histoire du piano. D'ailleurs, ça aura un rôle très important, non seulement sur l'œuvre de Bach, mais sur l'évolution de l'histoire de la musique, mais ça nous entraînerait peut-être un petit peu trop loin. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au départ, le piano forte rendait les contemporains assez perplexes. En 1774, le vieux Voltaire écrit, je dis le vieux Voltaire parce qu'il va mourir vraiment très âgé en 1778, il écrit qu'il s'agit d'un instrument de chaudronnier en comparaison du majestueux clavecin. Il va falloir attendre encore plusieurs années pour que le piano apparaisse comme un instrument de virtuose, avec deux inventions, les pédales en 1783 qui vont donner de la profondeur et de la longueur au son, et puis surtout le double échappement en 1723, le double échappement inventé par le français Sébastien Érard. C'est ce qui va permettre, vous savez, de jouer deux notes de façon extrêmement rapprochée, même quand la touche est encore un petit peu enfoncée. Ça permet de jouer des pizzicati notamment, comme on dit, et c'est ce qui va donner au piano sa dimension virtuose. C'est au XIXe siècle, c'est à l'époque romantique que le piano devient l'instrument roi. C'est Chopin qui va, Liszt aussi, enfin bon, tous ces grands musiciens romantiques vont lui donner ses lettres de noblesse. Mais ça fera très bientôt l'objet d'une émission à part entière.